Les podcasts d'AFDS.TV, les suppléments d'Aux Frontières des Séries, une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les entretiens d'AFDS, Alexandre Marlier.
François Corbier, né Alain Roux en 1944 à Paris, a débuté sa carrière de chanteur en duo avec son frère en 1962. Il reprend par la suite le concept des chansons flash créées par Claude Serra. Après un passage par le club Méditerranée en tant que Géo, il travaille pour France Inter et sort son premier disque produit par Alain Barrière. Sa première télévision, il la fera en 1969 dans l'émission Musicolor où il interprétera la chanson de Roland. Après sa rencontre avec Jean-Louis Foulquier, dans un cabaret de Montmartre, il devient chansonnier. De 1970 à 1987, il se produira dans divers cabarets connus, l'Écluse, l'Échelle de Jacob, le Port du Salut, le Caveau de la République ou encore le Théâtre de 10 heures. En 1975, il devient un collaborateur occasionnel du journal satirique Fluide Glacial. Sa vie prend un tournant inattendu en 1982 lorsque Jacqueline Joubert l'engage pour animer Récréa 2. Il suivra Dorothée, parti créer le club éponyme sur TF1 en 1987. Après l'arrêt de l'émission, François Corbier revient à ses premières amours, la scène. Retour sur cette carrière bien remplie en compagnie de ce personnage hors du commun.
Salut, c'est Corbier, vous écoutez Aux Frontières des Séries.
François Corbier, expliquez-nous votre métier de chansonnier.
J'écris des chansons et je chante sur scène, partout où on me demande de venir. C'est pas engagé politiquement, c'est de la chanson qui a une résonance sociale. C'est-à-dire que je vis dans un monde, nous vivons tous dans ce monde, et si tout le monde se bouche les yeux et refuse de dénoncer tout ce qui nous entoure comme saloperie, eh ben on n'avancera jamais. Et moi je pense que dès l'instant où on a un micro, on doit dire les choses telles qu'on les voit, telles qu'on les perçoit. Ça ne veut pas dire que je me trompe pas, sans doute que je dis des conneries, c'est pas grave. Au moins j'essaye de montrer le monde dans lequel je vis, je veux en être témoin, et je veux que les gens qui m'écoutent, s'ils ont un petit peu d'attention, qu'ils se rendent compte qu'une chanson, ça peut être autre chose que « Je t'aime, t'es parti, reviens ».
Votre répertoire actuel a pu déstabiliser votre auditoire qui vous écoutait. Étant enfant, une chanson comme « Les épinards » semble à milieu du répertoire du Corbier du Club Dorothée.
Je trouve que les chansons que j'ai faites pour les enfants et cette chanson dont tu parles sont au contraire très très proches les unes des autres. Parce qu'une chanson comme « Le nez de Dorothée » est une chanson satirique sur Dorothée, sur son nez, mais aussi surtout sur le monde dans lequel nous vivons. Dans la chanson « Le nez de Dorothée », je dis « Le président dit c'est un scandale, il n'y a plus d'ordre, partout c'est la pagaille, le franc ne vaut plus un liard, partout c'est la bagarre ». Bon, tout ça c'est pas gratuit. Je m'adresse à des enfants avec un langage simple, mais ça veut dire aussi qu'il y a une espèce de j'ai envie de dénoncer des choses qui nous entourent. Or, la chanson dont tu parles, c'est exactement ça. Beaucoup de gens ne l'écoutent pas et pensent que c'est une chanson de cul. Pas du tout. C'est une chanson qui dénonce les commandos anti-avortement. Donc, c'est une chanson qui est très très proche de l'autre. Voilà, c'est la suite.
Quel est désormais votre public? Quel public vient vous voir en concert?
Ça dépend du lieu, ça dépend des organisateurs. Mais dans l'ensemble, les gens qui viennent me voir sont des gens qui me connaissent de la télévision, qui ont soit envie de me revoir en acceptant ce que je suis devenu, soit des gens qui sont déjà passés au-dessus de ce qu'ils aimaient dans l'animateur comédien de télévision et qui viennent parce qu'ils aiment bien les chansons d'aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de consensus de la part du public qui est là. Il y a souvent des gens qui ont 25, 30 ans, quelquefois un peu plus, qui m'ont connu à la télévision, mais qui acceptent tout à fait le personnage d'aujourd'hui. Je passe beaucoup d'heures sur l'ordinateur à répondre aux courriers des gens, à expliquer ce que je fais, ce que j'aimerais faire, comment je réagis. Pour ça, je fais un petit journal qui s'appelle Le Petit Corbinou, qu'on peut trouver en s'abonnant sur mon site, et c'est gratuit. Et les gens qui m'écrivent et auxquels je réponds comprennent mon personnage, il n'y a pas de lézard là-dedans. Les gens comprennent bien que je faisais un rôle de comédien et que un comédien ne se cantonne pas à un rôle toute sa vie, mais qu'il doit jouer aussi d'autres choses.
Que penseriez-vous de ressortir vos anciens succès en version remixée, par exemple?
Ouais, non, ça m'intéresse pas. Mais s'il y a des gens qui veulent le faire, ils peuvent, hein. Moi, je suis pas contre. À partir du moment où j'ai fait une chanson, elle appartient aux auditeurs et les gens qui veulent la retravailler, en faire autre chose, qu'ils le fassent. Ils n'ont même pas besoin de me demander. Il y a la SACEM qui est là pour me donner les droits. Donc, ça ne me gênerait pas du tout qu'on le fasse, mais moi, je ne le ferai pas.
À la fin du Club Dorothée, vous êtes un peu sorti du radar médiatique. Était-ce délibéré parce que vous n'appréciez pas le Star System ?
Pour vivre heureux, restons cachés. C'est pas la peine d'aller se prêter à des tas de choses lamentables pour exister. On n'a pas besoin de ça. Je vais même plus loin. Je considère que les gens qui participent à des soirées dans la jet set, des gens qu'on paye pour ça, sont des gens pour lesquels je n'ai pas d'amitié. Je n'aime pas ces gens-là. Je trouve qu'un type qui va dans des soirées de la jet set qu'on paye souvent très cher et qui ensuite se plaint dans des journaux qui ne sont pas des journaux mais des torchons, ce type-là ne m'intéresse pas du tout. Il a ce qu'il mérite.
Vous n'avez pas reçu le soutien d'AB Productions dans votre carrière post-Club Dorothée. Pourquoi, par exemple, n'ont-ils pas produit vos disques ?
Je présume que ça n'intéressait pas les gens d'AB parce que c'est pas ce qu'ils savent vendre. Ce n'est pas ce qu'ils ont envie de vendre. Et puis, il y a aussi le fait que AB Disque n'existe quasiment plus. D'autre part, moi, je voulais changer d'image et ce n'est dans le même catalogue que j'avais des chances d'arriver à changer d'image. Je ne dis pas que j'ai réussi à changer d'image, mais j'ai réussi à ne pas avoir de maison de disque, en tout cas. Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait a été enregistré grâce à de l'apport extérieur, c'est-à-dire à des gens comme toi et d'autres qui disent « Mais nous, Corby, on t'aime bien, on va acheter ton disque avant qu'il sorte et qui m'en commande avant qu'il sorte, ils m'en commandent 2, 3, 5, 10 pour les plus riches. » Et puis voilà, et ensuite, grâce à ce fric amassé, je peux faire un petit peu de studio, m'acheter un peu de matos et puis enregistrer ce que je veux, payer des musiciens, voilà.
Comment avez-vous débarqué dans les émissions jeunesse télévisée ?
J'ai fait 14 ans de télévision. Ça a commencé à la demande de Madame Joubert, la maman d'Antoine Decaune. Jacqueline Joubert est venue dans un établissement de chansonniers où je chantais des chansons pour adultes. Elle m'a demandé de venir à la télévision faire des chansons dans le même esprit, mais destinées aux enfants. Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'au jour où à la télévision, on ne m'a plus demandé de faire des chansons. Et donc, à ce moment-là, je suis devenu uniquement comédien. J'ai passé des années formidables à la télévision. J'ai rencontré des gens très agréables. J'ai voyagé, j'y ai bien gagné ma vie. J'ai aucune raison de cracher sur cette période de mon existence. Je veux simplement qu'on cesse un peu de me parler de ça parce que je suis passé à autre chose et qu'apparemment, les gens qui ont des journaux, les gens qui ont des radios, des télévisions, ce sont elles qui ont un problème avec cette image. C'est-à-dire que ces gens-là n'arrivent pas à se séparer de ce que j'étais à la télévision. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas les chansons que je fais maintenant. Ils ne m'invitent pas pour parler de maintenant, mais toujours pour parler du passé. Ce qui est, à mon avis, un petit peu grave pour moi parce que ça m'empêche de travailler, mais c'est aussi grave pour eux parce que ça veut dire que ces gens-là refusent de vivre dans le monde d'aujourd'hui et se cantonnent dans un monde passé.
On a beaucoup jasé sur le passage de Dorothée et son équipe de Récréa 2 sur Antenne 2 au Club Dorothée sur TF1, alors privatisé. Comment avez-vous vécu cette période ?
Ce que je sais, c'est que on a glosé, on a raconté des tas de choses sur Dorothée qui aurait emmené toute l'équipe avec elle, faisant démissionner tout le monde du service public pour aller bosser sur TF1. Alors déjà, d'abord, on ne bossait pas sur TF1, on bossait pour AB. AB est une société de production qui vendait un produit à qui voulait bien le diffuser. C'était TF1 qui le diffusait très bien. Moi, je ne connais pas les gens de TF1, je les ai quasiment jamais rencontrés, puis ils m'intéressent pas, puis je m'en fous. Bon, donc déjà, il faut bien se mettre ça dans la tête. Ensuite, Dorothée n'a emmené personne. Elle n'a emmené personne, c'est-à-dire qu'elle a dit à tout le monde, mais c'était pas elle, c'était ses producteurs, en réalité, c'était M. Azoulay, M. Berda, qui ont dit à tout le monde, est-ce que vous voulez venir avec nous ? On suivit ceux qui voulaient. Qui a suivi ? Moi. C'est tout. Puisque Jackie était déjà sur TF1, que Cabu n'est pas venu, William Lémergie n'est pas venu, Charlotte et Marie sont restés dans le service public, et les autres comédiens qui jouaient avec nous ne sont pas venus non plus. Donc je ne vois pas du tout quelle est cette idée que des gens se sont mis dans la tête en disant « Dorothée a emmené tout le monde ». Elle n'a emmené personne, sauf moi. Et moi, si j'y suis allé, c'est parce que le service public ne m'a rien proposé d'intéressant. Si service public m'avait dit « Corbier, on va vous garder et vous serez responsable d'une tranche, vous aurez le statut de de vedette, entre guillemets, sur cette tranche-là, sans doute que je serais resté. On me l'a pas proposé, donc je savais qu'il y avait Charlotte et Marie qui allaient présenter les émissions, c'était elles dont le service public allait faire un petit peu les vedettes, et moi on m'aurait demandé donc de continuer à servir la soupe à ces deux demoiselles que j'aimais bien, au demeurant que j'aime d'ailleurs toujours bien, mais quitte à servir la soupe, autant la servir à Dorothée, avec laquelle je travaillais déjà depuis 4 ans et que je connaissais bien, plutôt que de la servir à ces deux demoiselles qui étaient sans doute charmantes, mais c'était pas ma tasse de thé, j'avais pas envie de leur servir la soupe.
Quelle différence faites-vous entre l'approche de Récréa 2 et celle du Club Dorothée au niveau de la conception des programmes ?
Il y avait surtout pour le public une approche totalement différente, c'est-à-dire que sur Récréa 2, il y avait de la part de Madame Joubert une demande faite aux auteurs d'être culturels. C'est-à-dire, si on racontait une histoire de pirates, il fallait que les noms cités soient les vrais noms, ce soit pas n'importe quel nom inventé. Il fallait que les situations soient réelles, même si elles étaient détournées, même si elles étaient faites en comique, il fallait que ce soit des situations réelles. Il y avait donc une volonté d'éducation, une volonté d'aller au-devant du désir inconscient des enfants d'apprendre. Alors que le Club Dorothée était uniquement clownesque. On ne cherchait absolument pas à éduquer. Alors, il y avait cependant au sein du Club Dorothée des gens qui étaient là pour éduquer les enfants, comme le docteur Klein qui expliquait les animaux, leur vie, leur façon d'être, leur sexualité, tout ça. C'était intéressant. Il y avait aussi d'autres personnes qui venaient donner des avis sur la science et tout ça, mais nous, on ne nous demandait quasiment jamais de le faire. Alors que dans Récréa 2, c'était tout le temps.
Au final, elle reste un mystère pour beaucoup. Vous qui l'avez côtoyée durant 14 ans, pouvez-vous nous dire qui est Dorothée ?
Qui est Dorothée ? Dorothée est une jeune femme qui a voulu être une star, qui à mon avis doit être une star dans l'esprit de beaucoup de gens, et qui actuellement ne travaille plus, n'a plus de famille, n'a quasiment plus de producteurs, et je pense que ça doit être extrêmement douloureux pour elle. Mais te dire qui elle est, c'est quelqu'un qui aime ce métier, qui aime jouer la comédie, qui aime chanter, qui aime aller sur scène, qui aime les enfants, contrairement à ce que des connards ont pu dire. C'est quelqu'un de tout à fait particulier, comme souvent les grandes vedettes sont des gens particuliers. Voilà. Mais il faut des livres pour raconter quelqu'un. Je pense que Dorothée reviendra le moment venu, lorsque des gens lui feront à nouveau confiance, et elle fera ce qu'elle aura envie de faire, dans la mesure où ses producteurs accepteront qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire.
Comment en est-on arrivé à cet arrêt du Club Dorothée alors que l'émission fonctionnait encore plutôt bien ?
Moi, ce que je peux en dire, et je suis tout à fait sincère en le disant, mais il est possible que des gens qui ont bossé au Club Dorothée soient plus dans les arcanes des choses et auront un autre avis, mais moi, ce que j'ai à en dire, c'est que il y avait un contrat qu'il y ait TF1 diffuseur à AB Productions fabricant d'images, et que ce contrat avait duré 5 ans, il avait été renouvelé encore pour 5 ans, et qu'à la fin de ces 5 nouvelles années, personne, ni TF1 ni AB, n'a eu envie de reconduire le contrat, et donc les émissions sont arrêtées, et c'est tout. C'est-à-dire qu'en réalité, l'émission s'est arrêtée parce que le contrat était terminé et on savait depuis 5 ans que ce contrat allait se terminer 5 ans après. Donc il n'y avait aucune surprise. Si des gens de métier disent qu'ils ont été surpris que ça s'arrête, ça prouve que ce sont des gens de métier qui ne sont pas très au courant de qu'on fonctionne avec des contrats.
Et puis comment s'est passée pour vous la fin du Club Dorothée ? Comment l'avez-vous vécu ?
Moi j'avais quitté le Club Dorothée un an avant la fin du Club Dorothée. Je suis revenu uniquement pour enregistrer les dernières émissions. Et c'est vrai, c'était un peu émouvant de se dire qu'on faisait un trait sur 10 ans de mon existence, même plus, puisque avant j'avais fait des émissions avec Réa 2. Donc je faisais un trait sur 14 ans de mon existence, c'était un petit peu lourd, quoi. Mais j'avais choisi de le faire, j'avais choisi de partir pour faire autre chose, parce que je peux pas passer ma vie à faire le crétin, recevoir des seaux d'eau sur la tête et n'avoir aucune reconnaissance, même pire, puisque il y a eu tout un moment, je pouvais plus me promener dans la rue parce que je me faisais engueuler par des gens qui disaient que nos émissions étaient de la merde et qu'on était mauvais et moi j'étais pas là pour ça. C'était un genre de haine qui se produisait il y a une douzaine d'années autour de nos émissions, autour de nous, autour de ce que nous avions fait, autour de ce que nous étions. Et moi, je fais pas ce métier pour que les gens me détestent, mais au contraire pour que les gens m'aiment.
François Corbier a sorti plusieurs CD depuis la fin du Club Dorothée. Des CD qui sont disponibles ainsi que plusieurs romans qu'il a écrits sur son site internet www.françoiscorbier.com, site sur lequel vous pouvez également retrouver son journal intime ainsi que sa discographie et les textes de ses chansons.
Les podcasts d'AFDS.TV aux frontières des séries.